Bien, bonjour à tous. Bon, maintenant, Zrinka est chez elle, il n'y a plus besoin vraiment de l'introduire. On s'est habitué et on s'en réjouit à chaque fois à venir l'écouter sur les fixeurs au Moyen-Âge, tous les vendredis, c'est l'avant-dernière fois. Et la deuxième, en tout cas, dont est, pour elle, dans cette question éthique que pose... le problème des fixeurs, le problème ou le dispositif des fixeurs. Il y avait quelque chose de poignant, vous vous en souvenez, la semaine dernière, lorsque tu évoquais, au fond, ces sujets qui n'étaient que des moyens, qui ne se pouvaient pas, au fond, affirmer comme puissance d'action ou volonté d'action, alors que, justement, tout au Moyen-Âge pouvait y inviter. Il y avait aussi quelque chose de touchant et, je dirais, de poignant encore une fois parce que ça venait vers aujourd'hui, lorsque tu nous parlais de cette conversion sans médiation qui était, d'une certaine manière, donnée à voir par cette image qui nous dominait, celle de Marco Polo. Et comme tu l'avais évoqué, eh bien, c'est toujours sur ces questions éthiques que tu vas rebondir aujourd'hui. Donc merci encore et nous t'écoutons.
Merci Patrick encore une fois pour cette belle invitation et pour cette belle occasion de pouvoir partager mon travail avec vous. Je vous remercie d'être revenu. Maintenant je commence à reconnaître les visages et puis je remercie ceux qui viennent pour la première fois. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas pu revenir, c'est Marco Polo, vous serez étonnés. Il est en repos. Mais il reviendra doublement la prochaine fois, je vous le promets, et je vous promets pour la prochaine fois beaucoup d'images aussi, mais aucune aujourd'hui. Bon, la dernière fois, nous avons étudié la possibilité d'une éthique de la traduction qui s'enracinerait dans la fidélité entre personnes. Nous avons ainsi construit ensemble, par le biais d'un corpus de textes des traités de croisade, le modèle composite du fixeur idéal. Un homme né en Europe chrétienne, parlant les langues étrangères des nations infidèles ou schismatiques, connaissant les mœurs et coutumes de ces nations, en pleine possession de ses connaissances et de ses capacités, donc autonome dans sa capacité d'agir pour arriver à des fins de conversion et de domination mondiale. Mais aussi un homme fidèle et dévoué, dans l'obéissance totale. Le fixeur serait un moyen pur, sans volonté propre, se faisant à l'intermédiaire invisible. Nous avons constaté que le traité de croisade ne permet pas à l'intermédiaire de devenir un sujet de volonté et d'action, mais le façonne en moyen pur, quelqu'un qui peut agir, mais non quelqu'un qui veut agir. Sa puissance d'agir se déploierait ainsi dans l'obéissance, parce que le fixeur peut, non parce qu'il veut agir. Donc nous avons contrasté le pouvoir contre le pouvoir agir contre le vouloir agir, et nous l'avons constitué, ce vouloir agir, par rapport à la subjectivité. Or, cette fidélité aveugle, la puissance d'agir, est justement en conflit avec sa capacité d'agir, sa forme d'existence qui intervient, mais n'obéit pas, au hasard des rencontres dans des situations toujours inédites. Car la capacité d'agir du fixeur dans la relationnalité lui rend une position du sujet. Le fixeur, en tant que sujet de volonté et d'action, remet en cause la subjectivité du client et sa propre fidélité. Et par conséquent, nous avons posé la question, suis-je le client, un sujet de volonté et d'action, si je passe par un intermédiaire ? Cette éthique de la traduction qui s'enracinerait dans la fidélité des fixeurs, je l'ai évoquée à la fin de la deuxième leçon, s'inscrit dans les rapports de pouvoir et dans la finalité économique. Elle nous occupera aujourd'hui, mais nous poserons la question autrement. Puis-je, le client, me reconnaître comme un sujet de médiation et non un sujet de volonté ? Autrement dit, puis-je, en tant que sujet, reconnaître mon lien à et mon passage par l'intermédiaire. Ou, pour rester un sujet, dois-je rester imputable de ma responsabilité envers le fixeur, c'est-à-dire, dois-je lui donner la mort pour rester le sujet ? Quant au pouvoir, On voit les fixeurs troubler les États qui se servent d'eux pour être leurs hommes à tout faire. C'est comme si les fixeurs représentaient un défi à l'autosuffisance de l'État-nation. Par rapport à la langue, centrale dans ce dispositif de fixeurs, que veut dire État-nation ? La définition primaire, celle contre laquelle finalement tous les mouvements autonomistes et indépendantistes s'insurgent depuis la constitution des démocraties nationales et aussi depuis l'arrêt définitif des frontières entre le 19e et le milieu du 20e siècle, c'est la coïncidence entre la langue, l'ethnie et l'État. Bref, le français, c'est la France, n'est-ce pas ? Je signale par ailleurs que cette définition ethnolinguistique de l'État est très problématique pour la francophonie d'aujourd'hui, comme, bien sûr, elle l'est pour le Moyen-Âge d'hier. Moi, je dis par exemple toujours que je ne travaille pas sur la France médiévale, que je travaille éventuellement sur le Moyen-Âge français, et plutôt sur le Moyen-Âge de la langue française. Dès qu'on sort du cadre de cette coïncidence entre la langue et l'État, l'intermédiaire trouble cette homogénéité fictive du surcroît. À qui revient la fidélité du fixeur ? Pour éviter la trahison et pour accomplir la domestication, et je reviens ici au Moyen-Âge et parle de cette domestication des peuples autochtones par la conquête, et là, on est toujours dans les rapports de pouvoir entre les langues et que les intermédiaires nous révèlent, donc pour éviter la trahison, la solution serait de devenir son propre fixeur, d'effacer, sinon d'éliminer le médiateur, l'échangeur, comme le fait Marco Polo. Comme si grâce à cette invisibilité, à cet effacement, il n'y avait plus de différence linguistique, plus d'hétérogénéité tout court. Comme si l'action de convertir, la conversion, qu'elle soit religieuse ou économique, se passait sans heurts. Comme si cessait finalement d'être visible le fait même de la domination, dont le fixeur révèle que c'est une lutte entre fidélité et trahison. Et d'autre part, nous avons vu que devenir son propre fixeur a une finalité économique. Dans le cas de Marco Polo, on est dans la logique marchande, logique de la conversion. Dans le cas de Pierre Dubois, on est également dans une logique d'échange et de circulation, sans néanmoins oublier la fin ultime de la domination mondiale économique par la conversion religieuse. C'est donc en suivant Polo et Dubois, l'un dans sa pratique et l'autre dans sa théorie, que nous avons pu souligner une autre articulation entre l'éthique et l'économie. Et nous avons vu que peut-être l'éthique des fixeurs ne peut s'articuler que sur l'économie. Aujourd'hui, c'est cette articulation qui me préoccupera et nous travaillerons peut-être même un peu trop rapidement à partir des sources primaires, les notions de don et de contrat. Donc la question, le travail des fixeurs relève-t-il d'une logique du marché, de l'économie d'échange ? Les notions de courtoisie, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie, la courtoisie ? Et notion de pouvoir et de puissance. La dernière fois, nous avons terminé avec la question, combien de vies sauves, françaises, britanniques, américaines, valent la vie d'un seul fixeur ? Le contrat que l'armée, et donc l'État-nation, passe avec un fixeur, a-t-il une durée ? L'oblige-t-il à plus qu'un échange de services contre une rémunération ? Accompagner, arranger, faciliter, négocier et, ce faisant, sauver les vies, oblige-t-il à une réciprocité parce qu'il y a un contrat ? Ou la réciprocité est-elle tout simplement en dehors du contrat ? Autrement dit, la réciprocité est-elle contractuelle ? Se réduit-elle au contrat ? Et par là même, le fixeur, s'il y a un contrat, doit-il impérativement prouver sa fidélité en protégeant et sauvant les vies de ceux qui le payent au risque de la sienne ? Où s'arrête sa responsabilité contractuelle ? Ou y en a-t-il une autre que contractuelle ? Je reviens donc à cette condition première des fixeurs, de vie et de mort, d'assurer la survie, d'arranger le passage avec le moins de rugosité et coup d'arrêt possible. Et comme d'habitude, j'espère que vous ne la trouvez pas mauvaise. Je vais d'abord passer par deux histoires, une contemporaine et puis une médiévale. Au tout début de janvier 2013, à l'orée d'une nouvelle année, donc imbue du symbolisme d'un nouveau départ, TV5 Monde, la chaîne mondiale francophone, a diffusé un reportage sur les interprètes afghans qui travaillaient depuis des années pour l'armée française, sous le titre « La France va rapatrier des dizaines d'interprètes locaux de l'armée ». Je souligne le terme de rapatrier, on l'a déjà interrogé dans l'alternance avec « relocaliser », on y reviendra encore. Le présentateur de TV5 Monde introduisit le reportage comme une leçon du passé. En Algérie, l'armée française avait abandonné les harkis que les Algériens, qui les percevaient comme des traîtres, ont par la suite torturés et mis à mort en grand nombre. Au début de l'année 2013, lorsque les Français quittaient leur mission de l'OTAN en Afghanistan, la France projetait d'offrir l'asile à 60 ou 70 de ses interprètes fixeurs. Selon le ministre de la Défense de l'époque, le nombre s'élevait au plus à 10. On a pu voir la semaine dernière que 5 ans plus tard, en 2018, la situation de ces fixeurs afghans est loin d'être résolue par l'État français, qui les soupçonne de possible trahison, d'importer le terrorisme sur le sol français. En même temps, ils sont accusés de trahison et menacés de mort par les talibans. En tout cas, en 2013, pour apporter la preuve de leur médiation sans faille et de leur fidélité sans tâche, dont tous les soldats et officiers témoignent sans relâche dans les multiples interviews que j'ai pu consulter, le reporter interrogea les soldats français. Pour les Français, ils étaient des collaborateurs précieux. C'est une citation. Par exemple, pendant des années, un fixeur a conseillé aux militaires français d'apporter toujours des dons, pour la plupart de nourriture, au checkpoint qui cernait Kaboul, tenu par l'armée afghane. Le commandant de l'unité s'exprima « Ça permet d'ouvrir les portes plus facilement. » Et le journaliste conclut « C'est le meilleur de laisser passer. » Dans cette situation tout à fait banale, un don de nourriture, on peut remarquer que le fixeur seul ne suffit pas pour faciliter la communication. Ses capacités linguistiques n'arrive pas à remplir le contrat qui le lie à l'armée française. Il faut un don, que d'ailleurs sa médiation fait advenir. Il faut un don pour que l'intermédiaire puisse créer une chaîne communicative continue avec moins de heurts entre les Français et les Afghans. Il y a donc un lien entre le don et la communication, la circulation ne pouvant pas exister sans le don. Le don pourvoit à la communication. Il n'y a pas de don sans la médiation, ni de médiation sans le don. La deuxième histoire, médiévale, nous est rapportée par le dominicain Ricoldo de la Montecroce dans son livre de pérégrination, écrit à son retour de mission au Proche et Moyen-Orient qui avait duré de 1288 à 1300. Je cite l'histoire. Les Tartares disent aussi que les oiseaux du ciel annoncent aux hommes que ce sont eux les maîtres du monde et que le monde entier doit leur payer tribut et leur faire des présents. Un franc s'était rendu chez un grand prince tartare. Le prince lui demanda « Que m'as-tu apporté ?»« Rien, » dit-il, « parce que je ne connaissais pas ta magnificence. » Le prince répliqua « Mais... les oiseaux du ciel eux-mêmes ne te l'ont-ils pas annoncé quand tu es rentré dans mon pays ? » ?»« Il se peut qu'ils l'aient fait, » répondit-il, « mais je n'ai pas compris leur langue. » Cette histoire a un précédent authentique, la visite du Dominicain à Slin au camp du prince tartare Batou entre mai et juillet 1247, relatée par Simon de Saint-Quentin. Simon, un autre dominicain, appartenant probablement aux provinces soit de Terre Sainte, soit de Grèce, faisait partie de cette mission grâce à ses connaissances de langue orientale, probablement le persan, langue véhiculaire avec les Mongols de l'Ouest. La mission d'Aslin s'est avérée catastrophique. Les Mongols, refusant l'ambassade, ont ces mots « Comment pouvez-vous, en apportant les lettres de votre seigneur et eu égard au respect, vouloir vous présenter à notre Seigneur les mains vides, manibus vacuis, ce que nul homme venant ici ne lui a jamais fait. » Revenons à Ricold. Même si Ricold n'en parle pas, on sait par d'autres récits de missionnaires à la cour mongole, comme le récit de Simon, que les chrétiens communiquaient avec les princes mongols par le biais des interprètes, et parfois en passant par plusieurs, deux, voire trois langues pour une seule traduction. Les langues les plus communes étaient le grec, le latin, l'arabe, le persan, le tartare. Mais la langue étrangère que le franc de l'histoire de Ricol ne comprend pas est celle des oiseaux. La langue des oiseaux figure-t-elle la différence linguistique absolue, la non-intelligibilité ou l'intraduisibilité d'une langue étrangère? Il n'en reste pas moins que le franc qui ne comprend pas et à qui on ne traduit pas la langue des oiseaux n'apporte pas de don au prince. Il n'entre pas dans l'échange et la circulation. Et par là même, il se met en danger de mort, à laquelle il échappe uniquement en reconnaissant le manque de cette traduction. Et alors, le prince adoucit et l'épargne. Sans le don, non seulement la communication risque de s'interrompre, mais le franc risquait d'y perdre sa vie. Alors on peut noter ici les positions génériques du prince tartare et du franc, ce qui donne bien sûr à cette histoire une valence universelle dans ce rapport entre la traduction et le don. Une traduction survient néanmoins, elle nous est invisible, elle reste implicite, c'est la traduction entre la langue du franc et la langue du prince mongol qui permet de traduire la langue étrangère des oiseaux. Tout est fait dans ce récit de Ricold comme si le prince lui-même traduisait la langue des oiseaux pour le franc et que la réponse du franc parvenait sans médiation au prince. D'ailleurs, on aurait tort, je crois, de considérer que la langue des oiseaux, la langue non humaine, est la seule absolument étrangère. Sans la traduction, ne serait-ce pas le cas aussi pour le tartare et le français? Cette traduction entre deux langues humaines permet que quelque chose advienne sans quoi le franc serait en péril de sa vie, n'ayant pas apporté de don. Le prince tartare a le pouvoir souverain de décider de sa vie et de sa mort. Et je fais référence ici à Michel Foucault. Il est souverain car il dispose de ce pouvoir de donner la mort. Mais la communication qui s'installe entre le prince et le franc permet la survie du franc. Le prince lui laisse la vie plutôt que de lui donner la mort. Quand il avoue son ignorance de langues étrangères, le franc reconnaît le pouvoir souverain du prince qui se fait interprète ici. Il reconnaît son impuissance sans la traduction, sans la médiation d'un fixeur. Il se soumet à ce qu'on pourrait appeler doublement le pouvoir princier de la traduction. Historiquement, les plus grands princes augmentaient leur prestige en encourageant les traductions, et ça on verra la prochaine fois, à la dernière leçon. Mais la traduction, plus figurativement, est aussi un pouvoir princier en ce qu'elle donne ou laisse la vie. Le prince donc, et en termes historiques on doit imaginer que c'était probablement par le biais de ces interprètes qui étaient à la cour mongole et qui nous restent invisibles, le prince lui offre le don de la traduction et avec elle le don de la vie. Que voit-on dans cette histoire? Que tant qu'il n'y a pas de traduction, il ne peut y avoir de don. Tant qu'il n'y a pas de traduction, il ne peut pas y avoir de don de vie. Sans traduction, on est menacé de mort. Autrement dit, la traduction ou son absence détermine le droit de vivre ou de mourir. C'est-à-dire que la traduction est une forme de survie, et je ne veux pas dire ici de texte ou de l'original comme on pourrait le penser avec Walter Benjamin, mais une forme de survie des personnes. Je pose ce lien intime, fondamental, entre la mort et la médiation linguistique, à la fois pour entrevoir les limites de la traduction et pour observer la traduction dans les situations limites. Quel est donc ce lien entre la traduction par les fixeurs et le don, tout particulièrement le don de vie? Permettez-moi de revenir maintenant sur la notion de don et Marcel Mauss. Je retiens les vieilles notions du don moussien, son côté phénoménologique. L'aspect phénoménologique du don était précisément l'objet de la critique de Jacques Derrida dans son livre « Donner le temps », publié en 1991. Que dit-il contre Mauss? Pour qu'il y ait don, il faut qu'il n'y ait pas de réciprocité, de retour, d'échange, de contre-don, ni de dette. Alors que Mauss, Derrida continue, parle de tout sauf du don. Il traite de l'économie, du sacrifice, du don et du contre-don, bref, de tout ce qui, dans la chose même, pousse au don et à annuler le don. Tous les suppléments de dons, le potlatch, les transgressions, les excédents, les plus-values, la nécessité de donner ou de rendre plus, les retours avec usure, bref, toute la surenchère sacrificielle, dit Derrida, sont destinés à réentraîner le cercle dans lequel il s'annule. Derrida considère qu'il y a une incompatibilité sans recours entre le don et l'échange et que, je cite, « un don échangé n'est qu'un prêté pour un rendu », c'est-à-dire une annulation du don. Le don, mon sien, est une économie, et pour Derrida, une économie nie la possibilité du don. Le reproche le plus important que Derrida fait à Amos, c'est que le don n'existerait pas sauf dans un échange, dans une forme de circulation, dans le cercle mosien qui est défini par le contre-don qui doit arriver à temps d'une échéance. Le don est une réciprocité avec échéance. Au fond, Derrida reproche à Amos que le don serait toujours une économie de don. Derrida voudrait un don absolu, sans réciprocité et échange. C'est là que Derrida fait un geste surprenant. L'erreur de mots, selon lui, s'originerait dans la mauvaise traduction. Et il pose la question. Les différentes notions culturelles de don peuvent-elles toutes être traduites par ce seul terme de don de la culture occidentale? Pourquoi mots traduit-il le « give and take » de Bronislav Malinowski, « donner et prendre » Pourquoi ce « give and take », »,« donner et prendre », il le traduit par « donner et recevoir » Mais là où Derrida critique la traduction du don, je souhaiterais inverser son propos et poursuivre l'idée du don, du don de la traduction. Ainsi, je ne mettrai pas la traduction dans le sillage de Walter Benjamin et de Jacques Derrida sur un piédestal au rang supérieur qui accorderait à la traduction le pouvoir souverain de trancher ce qu'est le don, s'il existe un don absolu ou s'il y a uniquement une économie de don. Au contraire, je souhaite montrer que la traduction est toujours déjà impliquée dans l'échange de dons, dans l'économie de dons. Pourquoi ? Parce que, comme l'on verra et comme on a déjà pu anticiper par les deux exemples que je vous ai donnés, la traduction est elle-même un don de vie. En tant que don, elle ne peut pas révéler un don authentique qui serait en dehors de l'échange, en dehors de l'économie. Elle ne peut pas trancher ce qu'est le don puisqu'elle est un don elle-même. Je m'appuie ici sur Maurice Godelier qui a apporté une relecture magistrale de ce legs de don de Marcel Mauss dans son livre « L'énigme du don » publié en 1996. Comme Derrida, Godelier ne voit pas les allers-retours des dons par le prisme de don contre don. Mais ce n'est pas pour autant qu'il revendique avec Derrida que pour qu'il y ait don, le don doit être absolu sans réciprocité dans le désintéressement. Godelier élargit cette circulation en faisant comprendre que dans l'échange de dons le plus simple, non agonistique, je cite, « l'aller-retour quasi immédiat du même objet est peut-être l'illustration la plus nette de la logique implicite des dons qui crée des dettes qu'un contre-don n'annule pas. » Alors qu'on a vu que pour Derrida, le retour annule le don, c'est-à-dire la possibilité même que quelque chose comme don existe. Je continue avec Godelier. « Car l'objet qui revient vers son propriétaire initial n'est pas rendu, il est redonné. » Vous vous souvenez, Derrida, c'est un prêté pour un rendu. Et là, c'est pas rendu, il est redonné. Et c'est là que Godelier loge sa critique du contrat de Marcel Mauss et de la symbolique de Claude Lévi-Strauss. « Si l'objet n'est pas rendu mais redonné, il n'y a pas d'annulation de don. » Je cite, et au cours de son aller-retour, l'objet ne s'est pas déplacé pour rien. Beaucoup de choses se sont passées grâce à son déplacement. Le don et le contre-don d'un même objet sont peut-être le déplacement minimal nécessaire pour qu'une prestation totale se mette en marche. Qu'est-ce que la prestation totale ? Dans l'échange de dons, elle combine beaucoup d'aspects de la pratique sociale et de nombreuses institutions qui caractérisent une société. L'échange est collectif et n'est pas exclusivement fait de biens et de richesses. Au contraire, il y a des politesses, des festins, des rites, etc. Les phénomènes sociaux sont totaux, explique Godelier, et je le cite, « non pas parce qu'ils combinent en eux de multiples aspects de la société, mais parce qu'ils permettent en quelque sorte à la société de se représenter et de se reproduire comme un tout. Pour paraphraser Godelier, le don est total. Entre Derrida et Godelier se profile donc la différence entre le don absolu et le don total. Cette différence, je l'espère, nous paraîtra plus clairement avec Raymond Lull, qu'on a déjà fréquenté un peu la dernière fois, et qui, comme Marco Polo et Pierre Dubois, prône l'idée d'être son propre fixeur. Ce que Lull lui-même avait accompli, il a appris l'arabe, il s'est auto-traduit entre le catalan, le latin et l'arabe. Il était influencé par les dominicains, il avait même rejoint l'ordre des dominicains, et il a fini par rejoindre les franciscains qu'il croyait plus capables de transmettre au plus grand nombre de non-chrétiens sa méthode de logique. Lull a exposé sa logique dans l'Ars Magna, qu'il a auto-traduit en arabe en 1291 à Gênes. Il avait la conviction que les non-chrétiens devaient, par la démonstration logique même, se convertir. La conversion par l'effet d'auto-traduction, voici encore l'idée qu'on a vue déjà, que la traduction, qui n'en serait pas une, parce que Lull serait son propre fixeur, doit pouvoir faire agir. La traduction est performative, elle va provoquer la conversion. La position de Lull par rapport au don et à la traduction ne varie pas dans les traités de croisade qu'il a écrits tout le long de sa vie à partir de 1292, donc après la chute d'Acre, jusqu'en 1311 dans sa biographie « La vita coeternea », « La vie contemporaine », écrite sous sa dictée à la toute fin de sa vie. C'est là que Lull raconte in extenso son expérience de la conversion qui l'a amené à devenir son propre fixeur. La conversion, puisqu'elle est le début de sa nouvelle vie, est aussi le début de son récit. Alors que Lull était courtisan, les visions répétées du Christ crucifié le décident à se convertir à son service total, ce qui revient, dit-il, à donner sa vie et son âme, vitam et animam suam dare, et ceci en convertissant les Sarrasins au culte et au service du Christ. À peine quelques paragraphes plus tard, Lull reprend sa définition du service du Christ. Ce n'est plus de donner sa vie. Ce n'est plus de donner sa vie et son âme, mais de se laisser donner la mort, de souffrir la mort pour le Christ, dit-il, de morte toleranda, de tolérer la mort. La mort que Lull souhaite se laisser donner a été préfigurée, nous l'avons vu, dans les visions du Christ crucifié. Mais ce n'est pas une mort simple, non, c'est une mort en traduction, c'est un martyr translationnel. Lull veut se laisser donner la mort, la tolérer en convertissant les Sarrasins, c'est-à-dire en traduisant ses livres en arabe et en prêchant aux Arabes. Le don de sa vie se traduit en souffrant la mort patio, c'est-à-dire en accordant le pouvoir princier de la traduction au Christ. Mourir en traduisant, mourir en traduction est le service suprême du Christ, c'est la réalisation de l'imitatio Christi. Lull n'a eu cesse tout le long de sa vie que de militer auprès du pape et des rois chrétiens pour l'institution des monastères destinés à l'apprentissage de diverses langues. Je vous rappelle que les langues que Lull préconise sont le tartare, l'arabe, le persan, le couman, le guse, le grec, l'hébreu. Sans varier, Lull demande toujours la même chose au fixeur. Dans un premier traité de 1292, il conseille de choisir, je cite, « les hommes saints et pieux, apprenant les langues des infidèles, qui désirent la mort pour le Christ. » Desiderantes mori. Dans un autre traité très important, De Fine, 1305, Lull souhaite que les hommes robustes et lettrés, désirant de souffrir la mort pour le Christ, apprennent et comprennent les diverses langues des infidèles, pour pouvoir ensuite aller prêcher l'Évangile par tout le monde. Et il surenchérit, car de tels hommes dévoués et lettrés mourraient pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas redouté de mourir pour eux. Donc, encore une fois, imitatio Christi. Et dans son Liber de Acquisitione Terrae Sanctae, en 1309, il cherche, je cite, « les hommes intelligents, zélés, qui désirent mourir pour le Christ comme l'ont fait les apôtres. » Je souligne ce que vous avez remarqué, le verbe « désirer », qui revient sans cesse chez Lull, un désir, une volonté de mort. vu son désir propre à lui de souffrir la mort pour le Christ, est-il surprenant d'apprendre que Lulle jugea que les seuls fixeurs de mérite étaient ceux qui étaient volontaires de mourir en convertissant des infidèles? Dans le Définé, Lulle est brutalement direct. La foi catholique, si elle veut devenir universelle, a besoin de ses martires, de ses martyrs. Alors, vous l'avez peut-être remarqué tout de suite, le martyr translationnel est en effet une économie très étrange. On dirait que c'est un investissement à perte. Lulle propose d'investir dans les écoles de langue et dans la formation des fixeurs pour qu'ils puissent mourir lors de leur mission. On dirait qu'on est tout à fait dans le don absolu, le don de sa vie, sans réciprocité, qui est à la base de la critique de Mauss par Derrida. Sauf que son propre récit de sa vie complique cette lecture de Lulle, de don absolu. Quand Lulle devient son propre fixeur, ayant appris l'arabe, il abandonne son propre décret que le vrai serviteur du Christ ne doit pas craindre le danger de la mort corporelle. Plus Lulle insiste sur le lien entre la prédication dans la langue étrangère, non maternelle, et le désir de mourir, plus on comprend que cela lui pose un problème. En effet, il avoue qu'avant de partir pour Tunis en 1291 pour y faire son premier prêche, Lulle est d'abord saisi de peur, timor, qui vite devient terror. Il imagine son assassinat ou emprisonnement à vie et son imagination le paralyse au point où il renonce de monter dans le navire génois qui le mènerait à Tunis. Le peuple génois le hue publiquement. Et il vit cette humiliation publique comme une mort publique et il plonge dans une grande dépression. Il est entre la vie et la mort. Et là, il décide que son livre, l'Ars Magna, celui qu'il a auto-traduit en arabe, doit être sauvé. Et que seuls les franciscains qui acceptaient sa pensée seraient capables de le transmettre aux non-chrétiens. Il décide donc de quitter l'ordre des prêcheurs, les dominicains, pour rejoindre les frères mineurs, les franciscains. Il a conscience que cela entraînera la damnation de son âme, mais il l'a choisi, parce que par cet acte de sauver l'art qui convertira performativement les infidèles, par la prédication des franciscains, par cet acte, il a prouvé, je cite, qu'il aimait Dieu et les frères humains infiniment plus que lui-même. Lulle renonce à la vie éternelle de son âme et son livre prend sa place dans la prédication et la conversion. Au bord de la mort physique, Lulle accepte la mort spirituelle. Il donne sa vie terrestre et sa vie éternelle au Christ pour que l'autotraduction de l'art convertisse les non-chrétiens par la prédication des franciscains. Lulle accepte le martyre de la traduction pour le Christ et pour les autres. Il accepte d'être damné pour convertir. Et là, miracle, il guérit, embarque un autre navire génois et part pour Tunis. Lulle établit, il me semble, une nouvelle économie spirituelle. Il renonce à la vie éternelle et choisit la, je cite, la damnation éternelle plutôt que la perte de l'art qu'il savait avoir reçu de Dieu pour le salut de nombreuses personnes. Il perd la vie éternelle de son âme pour le salut de nombreuses personnes. Autrement dit, Lulle convertit la mort d'une âme, la sienne, au salut de nombreuses âmes. Il apparaît alors que l'économie de dons doit se justifier, ou se justifie, par la multiplication de bienfaits. La damnation de l'un équivaut à la conversion et au salut de nombreux autres, ce qui fait que la conversion produit un surplus de valeur. Il ne s'agit pas d'un simple échange don contre don, un prêté pour un rendu. Dans cette économie translationnelle, la mort d'un individu vaut le salut collectif, qui dépasse le sacrifice singulier pour le Christ. C'est en effet une vraie imitatio Christi, le sacrifice de l'un pour que la traduction fasse le salut des multitudes. On pourrait dire que l'institution des écoles de langue était déjà le germe de cette idée. Ce n'est pas une pure dépense, ce n'est pas un don absolu que d'investir dans les fixeurs qui vont mourir en mission. Au contraire, c'est un surplus, une plus-value, une profitabilité, même un rendement. C'est un don total. La seule façon de justifier cette offrande, l'imitatio Christi, c'est de faire entrer le travail du fixeur, l'effet de sa traduction, dans une économie, dans un échange. Hein, pour chaque fixeur mort, beaucoup d'âmes sauvées. Le don absolu se révèle finalement être un don total. Je vous rappelle l'exemple que j'ai évoqué la dernière fois de la relocalisation ou du rapatriement des fixeurs afghans des armées occidentales. C'est bien ce qu'on voit dans l'offrande que font les fixeurs à leurs employeurs français, britanniques et américains et dans la frustration de manque de réciprocité par les États. L'offrande, le don que font les fixeurs est absolu, dans le sens où ils y mettent leur vie. Mais finalement, ce geste n'est pas gratuit. Il n'est pas absolu dans le sens d'Héridien, mais en revanche, il est total dans le sens mancien. Et il attend une réciprocité, avec échéance, celle qui a été frustrée à répétition par le refus des États de rapatrier, ou au moins de relocaliser leurs fixeurs. À quoi est-ce dû? J'espère qu'à ce point, l'analyse de la traduction comme marché et du fixeur comme investissement et marchandise pourrait nous éclairer. Les voyageurs en terre dite sainte confirment que la traduction participe à une économie. Dans la séance précédente, j'avais parlé de la chute de la ville d'Acre, survenue donc en 1291, le dernier bastion chrétien en Syrie. C'est à partir des années 1330 que le pèlerinage chrétien en Syrie devient de plus en plus un voyage organisé. Et une économie marchande s'institue entre deux acteurs principaux, les Vénitiens, les principaux transporteurs des pèlerins sur la route entre Venise et Jaffa, et l'administration mamelouk, turque, qui organise l'accueil et aussi qui organise les fixeurs sur place pour les pèlerins. Les pèlerins n'arrêtaient pas de se plaindre de mauvais traitements infligés par le patron, le capitaine du navire vénitien, qu'ils soupçonnaient le plus souvent d'agir de connivence avec les officiers du sultan, et en dehors du contrat, tout forfait compris, qu'ils avaient conclu à Venise avec le patron pour le pèlerinage. Ils payaient une somme et voilà, ça devait être réglé. Mais les meilleurs exemples d'infractions au contrat se trouvent dans les contrats entre les pèlerins et leurs fixeurs faits pour la traversée du désert entre Jérusalem et le Caire via le monastère de Sainte-Catherine à Mont-Sinaï. Le dominicain Félix Fabre, encore lui, et Bernard von Breidenbach, diacre de la cathédrale de Mainz, voyageaient ensemble en 1483. Chacun inclut une copie du contrat avec le dragoman, le fixeur, dans son récit de pèlerinage. Et les deux se plaignent. Fabri. Ce sont les articles du contrat que nous avons conclus, mais nous avons eu de nombreux contentieux et problèmes avant de nous accorder. Breidenbach. Ce contrat, consigné à l'écrit, a été inscrit au registre de la chancellerie et scellé par le gouverneur et par le grand dragoman de Jérusalem. Mais, comme ces païens en sont coutumiers, il n'a pas été respecté. Il en est de même chez Georges Langueyrand, bourgmestre de Mont-en-Hainaut, qui accomplit son pèlerinage en 1485-86. Malgré avoir bien averti ce dragoman Calix de ne pas s'engager à nous guider sauf en respectant les conditions déclarées dans notre pacte le contrat, pourtant il nous a fallu passer par les compositions. Pour mieux illustrer la complexité de ces rapports entre les pèlerins et leurs fixeurs, je me concentrerai sur un groupe de textes tout à fait exceptionnel. On possède trois récits du même pèlerinage, entrepris en 1384 par un groupe de 12 Florentins, dont trois ont consigné leur expérience par écrit à leur retour. On les a déjà mentionnés, Leonardo Frescobaldi, Simone Sigoli et Giorgio Gucci. Tous les trois relatent les mêmes scènes de danger et de mort lors de leur voyage. Dans le désert, ils doivent monter la garde la nuit. Cette garde n'empêchera pas le vol, ruberia, orchestré par leur fixeur. Je cite Gucci, « Nous percevions clairement que ces vols précédaient de notre dragoman qui nous guidait et des chameliers. » Et si on croyait que le danger était dans le désert, on apprend finalement que leur séjour dans les villes musulmanes ne les protège pas plus de violence, ils reçoivent les insultes et les blessures lors de tout le voyage. Nous avons déjà signalé la dernière fois que ces situations de danger et de mort où les pèlerins voyagent sous la protection et la direction de leur fixeur, avec qui ils ont conclu un contrat, pose inlassablement des questions éthiques. À qui le fixeur est-il redevable dans ces situations de survie? Le fait qu'il ait payé pour ses services le rend-il responsable envers son client? Dans quelle mesure? L'intermédiaire est-il concerné par une éthique puisqu'il est intermédiaire? Quelle éthique poursuivre puisqu'il n'y a pas de profession? Je parle bien sûr d'une éthique qui ne serait pas une morale. Mais c'est l'économie de dons, peut-être, plutôt que ce que nous pourrions appeler une éthique, qui gère les rapports de pouvoir et la position du fixeur dans l'ensemble de la chaîne des médiateurs. Des trois voyageurs, le récit de Giorgio Gucci contient un budget détaillé de toutes les dépenses communes du début jusqu'à la fin du pèlerinage. Les pèlerins avaient constitué, il dit, une bourse commune qu'ils ont maintenue entre Alexandrie et Dama. Voici les catégories des dépenses que nous donne Gucci. D'abord, les dépenses pour le droit de passage et les sauf-conduits, i passaggi. 2. Les dépenses pour les seuls guides avec la courtoisie, cortesia. 3. Les mangeries, mangerie. 4. Les transports. 5. Les vivres. 6. Toutes les fournitures et provisions pour le désert. Et 7. Les auberges. Alors les quatre dernières, les transports, les vivres, les fournitures et les auberges, contiennent des informations historiques précieuses. Mais les trois premières, les frais de passage, les courtoisies et les mangeries, révèlent des rapports complexes entre les clients et leurs hommes à tout faire. Les passages et le sauf-conduit, ce sont les frais payables aux officiers du sultan. Les dépenses pour les guides seuls, ce sont les contrats passés avec les dragomanes. Ce à quoi les pèlerins ne s'attendent pas, une fois le contrat conclu, comme on a pu voir avec Fabry et Breidenbach et Longuerrand, c'est de devoir entrer dans un rapport supplémentaire de paiement et d'obligation avec leur fixeur, de payer au-delà de ce sauf-conduit et du contrat. Mais les circonstances de vie et de mort du voyage dans le désert les y obligent. Ainsi apparaît une nouvelle catégorie des paiements supplémentaires en plus du paiement stipulé dans le contrat formel. Une première catégorie est celle que Giorgio Gucci appelle les mangeries, c'est-à-dire des vols. Mangerie, cioè ruberie. Pour les Florentins, il était évident que les mangeries étaient une extorsion, je cite, mais il convient les payer même si ce sont des deniers volés. Mangerie est un mot de lingua franca, mangiaria ou mangiaria, pour signifier des extorsions ou des exactions. Sa signification propre implique la sorte d'extorsion pratiquée par les bédouins du désert, qui se terminait par le vol ou le don forcé de nourriture, mais dont se rendaient souvent responsables les dragomanes et les chameliers des pèlerins. Ainsi, le fixeur des Florentins, selon les dires de Frescobaldi, leur explique. N'ayez pas peur, ce sont des Arabes, c'est le nom employé pour les bédouins. N'ayez pas peur, ce sont des Arabes qui viennent pour que vous leur donniez de votre biscuit. Et ainsi fut. Ce don de nourriture explique l'origine du mot mangerie, hein, mangerie. Il s'agit de la nourriture ou de l'argent pris pour la nourriture. Pour les pèlerins, ces exactions sont d'autant plus inacceptables qu'elles sont imposées en dehors des termes du contrat. Anselme Adorno nous dit qu'au milieu du désert, les pèlerins ont été sauvés tant par amitié que sous l'effet de la corruption. Georges Longuerrand emploie aussi un autre terme de composition, toute mangerie, composition grande et petite. Et composition, ça comporte bien sûr l'idée d'arrangement ou de concession par accommodement. Alors, ce qui est mangerie, cioè ruberie, dans la description de Gucci, ce qui est corruption chez Adorno, et ce qui est composition dans le récit de Longuerrand, est tout à fait distinct d'un autre terme. Les pèlerins commandent souvent les dons en argent qu'ils dispensent le long de leur voyage, surtout à destination de leurs dragomanes ou muletiers et chameliers. Ils appellent ce don d'argent, en moyen français, courtoisie. Et on trouve cet équivalent aussi en latin médiéval, en italien et en moyen anglais. Dans la liste des dépenses de Gucci, la courtoisie apparaît dans la catégorie des paiements faits au guide. Ce sont, je cite, les deniers payés et dépensés pour les guides seuls, c'est-à-dire pour les dragomanes qui nous conduisaient d'un lieu à l'autre. Sur les 13 paiements effectués à 8 fixeurs, Gucci parle de 4 paiements supplémentaires, per cortesia. À chaque fois, le procédé de la notation est le même. Gucci présente la dépense officielle, celle contractuelle, par exemple, à Saïd, le dragomane, et à son fils qui nous a guidés d'Alexandrie au Caire, 5 ducats. Ce qui est suivi par la description de la courtoisie à eux-mêmes pour leurs dépenses d'Alexandrie jusqu'au Caire et par courtoisie que nous lui avons faite, 2 ducats en tout. Un autre sarrasin dont Gucci ne donne pas le nom est le frère Giovanni, moine du monastère de Sainte-Catherine, reçoivent ainsi de l'argent per cortesia. Au quatrième, Ali, qui a conduit les Florentins du Caire au Jérusalem pendant 36 jours de la traversée, chaque pèlerin a payé 4 ducats pour un total de 48 ducats, plus 4 ducats pour les dépenses d'Ali. Mais à Gaza, je cite, a lui-même 8 ducats, tantôt par courtoisie, tantôt par force, parce qu'il nous les tolit. 100 ans plus tard, le bourgmestre Langueyrand fera pareil. Chacun de nous, les pèlerins, avait payé plusieurs courtoisies au grand dragoman, lui-même, comme à ses commis et serviteurs. Gucci, comme Langueyrand, ne saurait être plus clair. Il y a un contrat, et puis il y a des suppléments. Non pas la mangerie, mais la courtoisie. Voici donc la relationnalité en général. On a les mangeries et les courtoisies qui sortent des confins du juridique, du contrat institutionnel. Mais il faut poser la question, puisque les deux se font en plus du contrat conclu, puisque les pèlerins les distinguent, en quoi la courtoisie diffère-t-elle de la mangerie ? Alors la courtoisie, contrairement à la mangerie, n'a pas été jusqu'à maintenant authentifiée dans la lingua franca, peut-être elle devrait l'être, même si les interlocuteurs arabophones des pèlerins comprenaient et utilisaient le mot. Le terme est néanmoins lié à la présence majoritaire de la noblesse francophone en Syrie et à la dissémination de l'idéal de la courtoisie par les pèlerins. Dans les récits de pèlerinage, il ressort clairement que la courtoisie est toujours monétisée, contrairement à la mangerie qui prend la forme de dons de nourriture la plupart du temps. On peut comprendre la courtoisie dans le sens de la totalité du don, de la prestation totale décrite par Mauss et reprise par Godelier comme le don d'argent qui est à la fois une politesse et un rite. Le don de la courtoisie constitue une relationnalité, voire une rencontre peut-être, entre les chrétiens et leurs fixeurs et elle mérite une analyse. Pour les pèlerins, la courtoisie est un paiement. Elle a sa valeur en ducat. Elle n'est pas dans le contrat. N'empêche que les pèlerins se sentent obligés d'en donner, dans certains cas. Contrairement à la mangerie, une vraie extorsion et exaction, la courtoisie est réglée comme par un pacte tacite ou secret que les deux parties acceptent et comprennent. Parfois avec un peu de contrainte, on l'a vu avec le cas d'Ali, hein, per cortesia et per forza, ou le cas d'Adorno, tant par amitié que par corruption. En 1499, Arnold von Harff explique que la courtoisie est un don secret qui renforce le contrat avec le fixeur. Ils me donnèrent cette lettre en guise d'attestation, c'est-à-dire lui donnèrent le contrat, que tout se passerait ainsi. Mais celui qui ne leur fera pas de cadeau secret en route, cela s'appelle courtoisie dans leur langue, dit Harff, et ne partagera pas ses provisions avec eux, devra endurer bien des contrariétés et outrages de leur part. Cela ne sera pas le cas pour celui qui tirera 10 à 12 ducats de sa poche et les leur donnera en signe de courtoisie. Au contraire, ils l'assisteront alors fidèlement, comme j'en ai fait souvent l'expérience en route. Car les Arabes sauvages nous attaquaient souvent en plein désert en poussant de grands cris, comme s'ils avaient l'intention de nous assommer en demandant des courtoisies, c'est-à-dire un tribut ou bien des cadeaux. Et je vous rappelle, peut-être vous vous souvenez, lors de la première leçon, on avait parlé de maître Vincent, hein, le fixeur de Harf, à qui Harf devait donner 100 ducats en cadeau, en plus du contrat et de la nourriture, etc. De même, Fabry rapporte que si les pèlerins ont la bonté, néanmoins, d'octroyer une somme d'argent ou un petit cadeau, ils les auront à leur service. Alors, la courtoisie. Une forme de bonté imposée par un contrat tacite qui assure le bon traitement des pèlerins. On peut conclure alors que ce qui n'est pas inclus dans le forfait tout compris du contrat avec les fixeurs des pèlerins, c'est le bon traitement. Sans la courtoisie, le contrat est toujours à la limite de non-accomplissement, à la limite de rupture. Le contrat ne suffit pas pour rendre le service, c'est la courtoisie qui l'assure. On pourrait même dire que la courtoisie est la garantie du contrat. La courtoisie est l'assurance dans le marché de la traduction que fournissent les fixeurs. Les pèlerins sont obligés à la courtoisie dans les situations de péril, de danger, de vie et de mort, surtout dans le désert, où leurs fixeurs menacent de les abandonner. Ils se sentent harcelés, maltraités, injuriés, attaqués physiquement, à craindre tout et rien. Est-ce cette peur qui les engage dans la courtoisie ? Être courtois pour conjurer la peur, pour le dire avec Patrick Boucheron, pour conjurer la peur de la mort ? Ou être courtois pour sauver sa vie ? Ainsi, on ne serait pas courtois par reconnaissance au fixeur, mais par la volonté de sauver sa vie. S'il y a courtoisie, les pèlerins s'en sortent. S'il n'y en a pas, ils seront encore plus maltraités. Je reprends ici la citation d'Anselme Adorno qu'on a vue la dernière fois. « Quant aux Francs, les Arabes les persécutent de façon inhumaine et tuent très souvent ceux qui n'ont rien à leur donner. » Bon, je pense qu'il exagère un peu. La courtoisie, il faut le dire, achète de la courtoisie. Ce qu'on voit se profiler ainsi, c'est l'égalisation de la vie et du paiement. Mais le fixeur se sent-il tenu à cela ? Donner de la courtoisie en argent, est-ce acheter ou est-ce donner ? On parle beaucoup d'accepter ou de recevoir un don, mais là, les pèlerins doivent accepter de faire un don. Peut-on tout simplement acheter une protection de sa vie ? Et en quoi faire un don pour se sauver change-t-il notre perception du don ? Dans l'interprétation classique, le don est fait pour dominer, c'est-à-dire pour endetter envers soi celui qui reçoit. Accepter un don, c'est accepter que celui qui donne exerce des droits sur celui qui reçoit. Contrairement à cette autre interprétation que je vous propose maintenant, accepter de faire un don, c'est accepter que celui qui reçoit exerce des droits sur celui qui donne. C'est le fixeur qui a les droits sur le pèlerin. Donner, ce n'est pas partager en endettant, c'est partager en s'endettant, en devenant redevable. Dans ces conditions, la courtoisie qu'on fait au fixeur est la reconnaissance de son statut de pouvoir. C'est entre ses mains qu'on met sa vie. Adorno dit « La vie des voyageurs est en effet entre leurs mains ». De surcroît, c'est la reconnaissance de son propre statut de précarité et de dépendance, la reconnaissance de devoir se lier à un autre qu'on préférerait tout simplement payer. Ce n'est donc pas celui qui reçoit qui est redevable. Au contraire, c'est celui qui donne qui est toujours en dette par rapport à celui qui reçoit. Celui qui donne est en dette de sa vie par rapport à celui qui reçoit le don et qui se charge de la protection de la vie du donneur. La dette n'est pas contractée par celui qui reçoit, mais par celui qui doit sa vie à celui qu'il paye pour la protéger. Que peut-on constater ? La courtoisie n'est pas un don de gratitude. C'est une garantie monétisée pour épargner la vie du pèlerin. Celui qui reçoit le don de courtoisie me fait crédit de ma propre vie, m'accorde le bail de ma propre vie. La courtoisie nous aide donc à qualifier la relationnalité du pèlerin et du fixeur. Le client n'est pas supérieur, mais dépendant. Ainsi, la courtoisie nous révèle les rapports de pouvoir et elle redonne de la visibilité, de l'agentivité, la forme d'existence à celui qui ne serait qu'un simple moyen, un objet de contrat. Et voilà qu'on apprend que le rapport entre le client et son fixeur excède toujours les limites contractuelles. Mais alors à qui le pouvoir vraiment ? Au cours des trois dernières séances, j'avais articulé, entre autres, une défense des fixeurs contemporains face aux États, parce que leur travail n'est pas pris pour sa valeur de sujet humain, mais comme un pur moyen. Mais il faut revenir à cette notion des hommes à tout faire. Les hommes à tout faire ne sont clairement pas des saints, puisque les hommes à tout faire font précisément tout, sans égard pour la morale du bien et du mal. Leurs actions ne font pas objet d'une déontologie, mais peut-être pas d'une éthique non plus. À écouter les récits des voyageurs occidentaux, comme l'exemple de nos trois Florentins, Frescobaldi, Sigoli et Gucci, il paraîtrait que tout le pouvoir réside entre les mains du fixeur, de leur fixeur à lui. Les trois voyageurs s'accordent sur l'histoire du vol dans le désert, et je cite ici Frescobaldi, « Un peu plus loin, sur une colline, surgit une brigade à pied et à cheval, armée à leur manière. Tout de suite, j'ai dit à notre dragoman, « Tu nous as trahis !» Entre-temps, certains compagnons qui avaient perdu leurs affaires donnèrent 22 ducats pour les ravoir, par la vérité. Ayant pris ces monnaies, ils s'enfuirent avec certaines affaires des compagnons. C'est ainsi qu'il faut comprendre la position des fixeurs des pèlerins. Le médiateur est toujours le traître. Et de même, pour les États occidentaux, comme on l'a vu, être soupçonné lors de la dernière séance d'importer le terrorisme sur le sol français, malgré toutes les preuves de sa fidélité. Le fixeur est donc le traître pour les Occidentaux. La courtoisie, c'est ce qu'on offre aux fixeurs. La ruberia, le vol, est évidemment ce que le fixeur prend, par force. Les choses sont-elles aussi simples que ça ? Même si nous avons de nombreux témoignages historiques sur les fixeurs, ceux-là ne nous sont pas parvenus que rarement par leurs propres paroles. Mais voici ce que Gucci dit de plus de Frescobaldi. « Nous pensions que ce vol se fit pour un chameau qu'ils avaient épuisé dans le désert à l'aller vers Sainte-Catherine et qui nous disait avoir été de notre faute parce que les journées étaient trop longues. Et par ce moyen, il demandait une amende. Selon ce qu'on a compris, les monnaies volées allèrent une part au dragoman, une part au chamelier et une part au voleur. Les récits des trois Florentins font valoir le danger auquel les fixeurs s'exposent, la menace pour leur gagne-pain dans le désert. Georges Languerrand rapporte une situation où on comprend la difficulté du fixeur, peut-être la même dans laquelle se trouvait le fixeur afghan de l'armée française avec qui on a commencé aujourd'hui. Je cite « Mais nous voici arrivés quand nous trouvions l'église pleine des gendarmes du sultan, nombreux à tel point que pour cette raison, notre voyage de Hébron a été interrompu et il nous a fallu prendre un autre chemin. Notre dragoman a été composé par eux, les gendarmes, de 8 ducats. » Ce qu'on découvre donc, c'est que les fixeurs eux-mêmes doivent payer des compositions aux gens du sultan comme aux bédouins du désert. Ainsi, les extorsions, les compositions et les courtoisies ne sont-elles pas un moyen pour faire la médiation de leur propre position, le rachat d'eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi traîtres envers les leurs. Et nous avons vu dans le contexte contemporain que les talibans menacent de mort les fixeurs pour avoir collaboré avec l'ennemi, l'étranger. Maurice Godelier a montré comment le don peut circuler non pas directement d'une personne à l'autre, mais aussi à travers les intermédiaires qui ne sont jamais des propriétaires. Cette dimension ressort d'autant plus fortement quand on doit composer avec la différence linguistique. Nous avons vu que le pouvoir n'est pas à celui qui donne, mais semble appartenir au fixeur, c'est-à-dire à celui qui transmet. Ce qu'on voit, c'est que ce transmetteur, cet arrangeur, n'est en aucun cas, en aucun lieu, le propriétaire de l'objet qu'il transmet. C'est la circulation qui protège, et lui, et les pèlerins de la mort. C'est le partage qui donne la vie. Aux pèlerins, aux fixeurs qui se rachètent auprès des siens, comme aux bédouins et aux gens du sultan qui réclament la mangerie. Mais comme le fixeur n'est jamais propriétaire, que sa valeur ne réside que dans le fait qu'il fait le passage, il lui est très difficile d'accéder à la position de sujet à une valeur propre. Il a donc toute la puissance mais aucun pouvoir. Cela explique peut-être l'effacement des fixeurs qu'on ne peut pas intégrer, rapatrier. Mais il y a autre chose, un trouble qui existe entre le marché des fixeurs et le lien auquel nous oblige l'intermédiaire et qui ne se réduit pas au contrat. Celui qui donne reconnaît l'alliance, la dépendance, la solidarité qui le lie au fixeur. Je reviens à l'analyse de Godelier. Je cite. Le domaine du donnable déborde largement le matériel et nous dirons qu'il est constitué de tout ce dont le partage est possible, fait sens et peut créer chez l'autre des obligations, une dette. Voilà donc tout le problème. Dans un rapport contractuel et marchand, il y a quelque chose de plus qui s'installe, qui dépasse le matériel. Ainsi étant jamais quitte envers celui qui a protégé notre vie. Soyons clairs. On demande aux fixeurs d'être des hommes à tout faire. En tant qu'intermédiaire, ils vivent dans l'entre-deux, entre la demande de fidélité absolue et la trahison toujours soupçonnée. Comme Lulle, les fixeurs de nos jours offrent leur vie dans une logique de surplus. Combien de vies sauves valent la vie d'un fixeur? La logique de don, la circulation du don, les vies sauvées des Occidentaux, la vie sauve du fixeur, dépassent largement le contrat et la logique du marché auquel il se trouve réduit, pour demander la réciprocité dans l'économie de don, qui est de l'ordre matériel comme immatériel. S'il n'y a pas de don absolu, celui de Derrida, peut-il au moins être réciproque? Peut-on accorder une réciprocité dans cette économie de don, c'est-à-dire reconnaître le lien et la dette au fixeur? Peut-on donner à celui qui n'a pas le droit d'être un sujet de volonté puisqu'il est intermédiaire? Le fixeur, un lieu de passage, un transmetteur sans valeur propre, au-delà de la performance du passage, s'est vu être systématiquement abandonné par les Occidentaux et est devenu la cible de la vengeance des siens parce qu'il a rendu ses bons et loyaux services à l'ennemi, à l'étranger. Ne serait-ce une courtoisie de la part des Occidentaux à donner le don de la vie, à sauver de la mort celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort, ou plutôt celui qui a une puissance d'agir, mais pas la puissance d'être un sujet, car il a la puissance de sauver la vie de celui qui le paye, mais aucun pouvoir pour négocier sa propre survie par un rapatriement, sinon une relocalisation. La courtoisie serait-elle alors la seule éthique possible, la seule possibilité d'une éthique qui ne peut s'articuler que sur l'économie? Excusez-moi. Courtoisie, la reconnaissance monétisée de la dette inavouable du lien à l'intermédiaire, parce que la dette est au-delà de tout contrat. Inavouable parce que celui qui a la puissance a fait multiplier les vies sauvées au prix de la sienne. Courtoisie, racheter sa dette des vies sauvées en donnant la vie au fixeur, en le laissant en vie comme le prince tartare laisse vivre le franc, parce que la multitude des vies sauvées en vaut bien une seule. Au fond, le fixeur n'exige-t-il pas tout simplement que les États assument leur pouvoir princier, souverains de la traduction, qu'ils assument d'être les sujets de médiation. Entre le don et le marché, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni ont laissé traîner le rapatriement de leurs fixeurs. Pourrons-nous envisager un mouvement, une internationale qui déclarerait « Les fixeurs de tous les pays, unissez-vous » Y aurait-il une insurrection des fixeurs, un gouvernement des fixeurs, un état des sujets de médiation? Alors, je vous avais promis aujourd'hui quelque chose de plus joyeux, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai tenu ma promesse. Alors, si je vous dis que la promesse d'un avenir, c'est pour la prochaine fois, vous ne me ferez peut-être pas confiance. En tout cas, j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine et je vous remercie du don de votre écoute et de votre attention.